Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Je vais parler brièvement de ses manières d'être ou de ses manières de faire, de son comportement de livre, peut-être, parce qu'il existe des livres bien élevés, des livres sages, comme il en existe des brutaux, des sales et des punks. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Alice Zeniter, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Toute une moitié du monde » aux éditions Flammarion. C'est parti. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
D'abord, merci beaucoup. Ça a été une super lecture. Dans ton intro, directement, en fait, tu te positionnes et tu expliques d'où vient ce livre. Tu l'as dit tout de suite. Tu t'es dit, on va commencer ça comme ça, ou c'est après avoir vraiment terminé d'une certaine manière où tu t'es dit, bon, bah, quelle intro je vais pouvoir mettre
Non, l'introduction, elle a toujours existé. Elle était beaucoup plus longue avant. Et à un moment donné, dans mes relectures, j'étais un peu perdue, je pense, dans le projet. Et je l'ai envoyé à une amie romancière qui s'appelle Chloé Corman. Et Chloé m'a répondu en disant « Déjà, la première chose à faire, c'est que tu vas couper la moitié de cette introduction où tu passes ton temps à t'excuser de ne pas avoir fait un livre qui soit au niveau universitaire. » Et à un moment donné... regarde ce que les hommes blancs publient comme essai complètement éclaté au sol sans dire pardon. Donc, on va enlever ce truc qui commence à dire « je suis désolée, j'ai pas bien défini mon corpus, je suis désolée, certaines notions auraient demandé à être creusées plus longtemps, il aurait fallu probablement peut-être faire un deuxième tome. » Donc, tout ça, je l'ai enlevé. et il est resté cette chose qui est de donner une date de naissance au livre, mais qui est pas tout à fait exact non plus, parce qu'en fait les livres ils germent quand même, enfin en tout cas chez moi, sur des temps tellement longs que leur attribuer une date de naissance c'est toujours un petit peu artificiel. Et puis aussi de dire voilà, c'est un objet hybride et je suis pas à l'aise en fait avec les termes qui existent, c'est-à-dire que essai me va pas, mémoire me va pas non plus, et donc on n'a qu'à dire que c'est un livre. À partir du moment où on dit juste que c'est un livre, je peux le laisser se comporter de manière beaucoup plus libre. Et c'est ça un peu le pacte de lecture qui est fait entre les lecteurs et lectrices et moi.
C'est ça, et c'est vrai qu'on avait déjà un petit peu vécu une sorte de positionnement comme ça avec « Je suis une fille sans histoire » et ce ton que tu as de si singulier, en fait, de mettre beaucoup d'humour dans ce que tu écris aussi, beaucoup de précision, beaucoup de détails, et en même temps d'avoir de temps en temps des reculs sur ce que tu écris, ce qui est vraiment très intéressant, en fait. On a vraiment l'impression que tu es avec nous dans la lecture et que ça rythme très bien. Et c'est vrai que la forme de « Je suis une fille sans histoire », c'est un seul en scène. Donc, d'une certaine manière, quand on le sait, on s'attend à de l'oralité, en fait, ce passage-là, à ce qu'on t'imagine le dire à haute voix, ou on pourrait nous-mêmes le lire à haute voix. Mais pour celui-ci, alors, je ne vais pas dire de réutiliser, parce que c'est, je pense, quelque chose qui t'est propre.
Je l'ai vraiment trouvé en scène, en fait. Je pense que je me suis beaucoup posé la question pendant des années de avec quelle voix on peut faire de la transmission de savoir qui est considéré comme un savoir universitaire et donc comme un savoir livresque, comme un savoir froid, comme un savoir et comment on fait quand on arrive avec ces références là qui véhiculent du coup leur propre part d'intimidation et donc d'exclusion, et comment on peut les partager en trouvant une voie qui soit autre, un mode de transmission qui soit pas la verticalité écrasante de la posture professorale vers les ignorants et ignorantes. Et finalement, je crois que voilà, je l'ai vraiment trouvé quand, avec Je suis une fille sans histoire, je me suis dit je vais le faire par la scène. Parce que en mettant mon corps en jeu et toutes les postures qui vont avec, et bon, notamment voilà ce grand foutoir que sont mes mains quand je parle, qui montre bien que toutes les questions que j'aborde, elles m'habitent réellement, que c'est un truc qui traverse tout le corps, mais aussi les modulations de la voix qui permettent en fait de faire des apartés, qui permettent de trouver d'autres tonalités. Enfin, par exemple, pendant très longtemps, moi, j'ai eu, quand je prenais la parole en public, j'ai eu uniquement ma voix de radio, qui est la même que ma voix de librairie, et qui, en fait, c'est pas ma voix. Là, je la maintiens au plus bas possible dans la gamme de ma voix, mais sinon, en fait, moi, j'ai tendance à partir très, très facilement dans les aigus, et j'ai la voix des petits garçons dans les mangas japonais, quoi. Et le fait, pour la première fois sur scène, de me dire que j'allais utiliser les différentes couches sonores, et donc que ça permettait de tresser des discours et des niveaux de discours et des niveaux d'adresse qui n'étaient pas les mêmes, c'est quelque chose que j'ai voulu réutiliser ensuite. Je pense que Toute une moitié du monde, il n'aurait pas du tout pu être écrit comme ça si j'avais pas, si j'avais pas eu cette traversée par le plateau des différents modes d'adresse qui sont possibles.
Ouais, c'est super intéressant, ça. T'as un parcours d'études qui est dans les lettres et dans le théâtre, et c'est super beau, en fait, de voir que c'est des choses qui se sont un petit peu fusionnées, en fait. Dans Toute une moitié du monde, une autre chose que l'on retrouve, c'est les notes de bas de page, et tu les expliques aussi. Enfin, on comprend pourquoi, en fait, dans le déroulé de ton livre, elles arrivent, et pourquoi, à qui tu les prends, etc. Puisque ce qui va faire tout ton livre, c'est ton parcours de lectrice. Ça va vraiment être ça, c'est comment les livres t'ont habité, t'ont changé, t'ont bousculé, sont juste passés et n'ont pas fait grand-chose, ou en tout cas, ce que ta vie est devenue grâce à la littérature. Et de se dire que ce petit endroit-là, qui est quand même très enthousiasmant, en fait, tes notes de bas de page, elles sont excellentes. On retrouve comme ça les mises en abîme, en fait, de ces différentes couches dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, je peux être à différents endroits de parole et j'investis jusqu'à la note de bas de page. Je vous lâche pas jusqu'au bout, en fait. C'est encore une fois quelque chose que tu as découvert avec Je suis une fille sans histoire.
Non. J'avais commencé un peu avec comme un empire dans un empire, mais... Ça dérangeait un peu mon éditrice. C'est-à-dire qu'elle me disait, il y a une partie des notes de... Enfin, en fait, les notes n'ont pas du tout le même statut. Il y a une partie qui pourrait être basculée dans la narration, directement dans la narration parfois, entre parenthèses à d'autres, et puis il y a une partie où c'est vraiment des écarts, et du coup, je ne sais pas quoi faire avec ce double statut des notes de bas de page. Et donc, j'en avais éliminé une immense partie. Et puis quand j'ai fait Je suis une fille sans histoire, ça me paraissait être une évidence que pour travailler ces différents changements de ton, il fallait que je travaille sur ce qui est censé être du paratexte, mais donc pour donner différents statuts au passage du texte. Et quand j'ai fait Toute une moitié du monde, il y avait vraiment ce truc, donc c'était mon éditrice de Flammarion qui était déjà l'éditrice de Comme un empire dans un empire, et je lui ai rendu un manuscrit qui était tellement saturé de notes de bas de page que je me disais, elle ne peut pas me demander de les couper. Le truc est intrinsèquement une partie du processus d'écriture. Et donc non seulement elle ne m'a pas demandé de les couper, mais en plus elle m'a dit, okay, il va falloir qu'on réfléchisse à quelle police on utilise pour les notes de bas de page, parce que avec la note de bas de page qui est uniquement de la référence bibliographique, vient aussi ce fait qu'elle soit vraiment en tout petit. C'est quelque chose sur lequel, puisque je vieillis, on s'esquinte les yeux en essayant de les lire. Et donc là, il y avait voilà cette idée de, on les grossit pour qu'elles soient faciles à lire. En même temps, il ne faut pas qu'elles soient l'équivalent du corps principal du texte, parce qu'il faut quand même que ça garde ce côté petit chemin de traverse. Et donc, on a vraiment travaillé l'objet livre aussi pour leur donner une place.
Ouais, ça fonctionne super bien. Le premier chapitre, c'est en effet Toute une moitié du monde. Donc là, directement, on retrouve quand même les thématiques que tu abordes dans Je suis une fille sans histoire, donc qui est ce principe qu'il y a toute une moitié du monde qui ne fait pas partie, en fait, des récits. Dans quelle mesure, en fait, tu as eu besoin de revenir dessus? Parce que même si c'est pas exactement au même endroit, Je suis une fille sans histoire, c'est vraiment, tu désingues Aristote et la façon de raconter les histoires. Mais ici, d'une certaine manière, tu t'es dit que tu allais prendre le prisme de tes lectures pour un petit peu mettre en avant, enfin montrer, en fait, très concrètement qu'il n'y a pas d'héroïne, de vraies héroïnes, en fait, dans la littérature que tu aurais lues pendant les 25, je crois, premières années de ta vie, quelque chose comme ça, ou en tout cas les 25 ans où tu as le plus lu.
J'ai eu, je pense, j'ai eu envie de revenir dessus parce que finalement, dans Je suis une fille sans histoire, cette question des récits de femmes qui font des trucs et qui sont en fait toujours des récits de femmes qui aiment et qui en meurent, que la mort soit un suicide ou qu'elle soit un assassinat. Finalement, c'est quelque chose sur lequel je passais très vite et en faisant une blague, en fait. Enfin, c'est toujours un moment quand je joue le spectacle qui déclenche des rires dans la salle. Je pense aussi que c'était, au moment où je l'ai fait, c'était la manière la plus simple pour moi de, d'aborder ce sujet-là. J'avais peut-être pas envie de descendre directement dans ce que ça pouvait me faire. Et là, la question, c'était ça, puisque je parlais vraiment du point de vue de lectrice, la question, c'était qu'est-ce que ça m'a fait et comment ça m'a construit comme femme, finalement, d'avoir très très peu accès à des personnages de femmes qui disposent d'une agentivité et à avoir en permanence accès à des personnages de femmes qui meurent. Et en fait, cette fréquentation d'un abattoir, si on veut un peu dramatiser les choses, ça a forcément eu un effet sur moi. Ça agit comme une mise en garde, mais comme d'une certaine façon, on nous dit, bah oui, le petit chaperon rouge, c'est un conte dont la moralité est, jeune fille, ne sortez pas toute seule, ne parlez pas aux inconnus, ne vous détournez pas du chemin que maman vous a indiqué, etc., etc. Et donc forcément, voilà, c'est le fait de se dire, il n'y a pas, en fait, déjà, il n'y a pas de femme avec d'autres enjeux que celui-là dans la bibliothèque avec laquelle j'ai grandi. Donc forcément, ça m'amène à une hiérarchie des relations sociales dont j'ai eu du mal à me débarrasser ensuite. Et notamment donc la question des amitiés féminines qui sont traitées en fait comme des pis-allers en attendant qu'arrive la seule relation qui donne un sens à l'existence et qui est la relation d'amour entre un homme et une femme. Donc voilà, c'est quelque chose qui forcément nous modèle. Ce passage de Maggie Nelson que je cite et qui me donne envie de fondre en larmes à chaque fois, mais où elle explique que en fait toutes les premières représentations d'une sexualité féminine qu'elle a rencontrées par la littérature, c'est des relations qui sont contraintes, qui sont violentes, qui sont parfois criminelles, et où elle dit en fait je refuse de parler d'une sexualité féminine tant qu'on n'aura pas un groupe témoin qui n'aura pas été exposé à ces représentations, et ce groupe témoin n'existera jamais. Je refuse l'expression sexualité féminine. Donc voilà, toutes ces choses, enfin de pouvoir le dire plus gravement, ces choses-là, et poser les questions des femmes qu'on aurait pu être avec d'autres lectures et qui existent finalement comme des sortes de fictions de nous-mêmes, et où je dis que parfois j'ai l'impression que je peux les entrevoir du coin de l'œil, et elles disparaissent, et je peux pas faire autre chose que... Comme je suis fatiguée, je suis très émue, pardon. Donc voilà, ça c'est pour le... Et ça explique aussi pourquoi je pense j'avais du mal avec l'idée de descendre directement dans les profondeurs de sujet la première fois que je l'ai abordé sur scène. La deuxième, elle est plus combative, on va dire. C'est-à-dire que... Il y a eu des critiques du texte de Je suis une fille sans histoire et de mes passages après à la radio où des gens me reprochaient de ne rien comprendre à la beauté de Madame Bovary, à la beauté du sentiment amoureux chez Anna Karénine et à la beauté des œuvres d'art en fait qui leur ont donné naissance et aussi qui me reprochaient en fait de demander à des auteurs du passé de fournir un modèle à la lectrice actuelle que j'étais. Et en fait, j'avais envie aussi de reparler de ça. Dans les grandes histoires de femmes adultères dont demeure et l'une pas qui m'ont été transmises, donc Lady Chatterley, Madame Bovary et Anna Karénine, je peux aimer follement l'œuvre littéraire qui leur a donné naissance, et c'est le cas pour le livre de Flaubert et celui de D.H. Lawrence. J'ai plus de mal avec Tolstoï, mais ce que je déplore, c'est l'empilement de ces histoires et leur répétition. Et par ailleurs, je ne reproche ni à Flaubert, ni à Tolstoï, ni à D.H. Lawrence de ne pas avoir pensé à la lectrice née en 1986 que je suis. Je reproche, en revanche, au système d'intermédiaire qui nous fait parvenir des livres et pas d'autres, que personne ne voit le problème en faisant grandir des filles, puis des jeunes filles, puis des jeunes femmes avec ces mêmes représentations. D'autant plus dans le cas de Madame Bovary qu'on sait que c'est un livre qui parle de l'effet que les romances ont sur Madame, sur Emma Bovary, qui, à force de lire des histoires d'amour avec des odeurs de lilas qui se fanent dans l'air du soir en Italie, va être incapable de trouver la moindre grâce à un homme qui n'en a pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire, la barre est basse, mais Charles Bovary, il est en dessous. Il est en train de faire du limbo sous la barre qui est très, très basse. Et donc on nous fait lire des livres qui nous disent que les livres ont un impact sur la manière dont on va ensuite formuler nos désirs, exprimer des désirs, etc., avoir des horizons d'attente. Et on se pose pas la question de qu'est-ce que tous ces livres qui accumulent des femmes mortes vont faire sur les lectrices qui se retrouvent avec ces livres entre les mains. Donc ça me paraissait important de pouvoir aussi reprendre ce constat sur les grandes femmes de la littérature sont des femmes qui meurent, et en disant, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que leurs auteurs auraient dû penser à moi, je dis juste que moi j'ai grandi avec ça, et que forcément ça m'a façonné, et ça m'a donné une certaine représentation de ce que veut dire être une femme, et j'aurais pu en avoir d'autres, j'aurais voulu en avoir d'autres.
Ouais, et en même temps, je trouve que t'es quand même sympa. Enfin, t'es super sympa avec eux. On nous a privés de modèles, en fait, pour exister. On a dû faire avec le fait que c'est les hommes, dans les livres qu'on lisait, qui avaient les rôles les plus aventuriers, qui avaient les fins plus ou moins heureuses, ou qui, en tout cas, vivaient des choses que nous, en fait, on n'avait pas l'occasion de vivre. Après, bon, ça a donné, comme pour beaucoup de personnes minorisées, la faculté de se projeter, hein, d'avoir ça. Apparemment, c'est un talent que nous avons, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Mais parce qu'on n'a pas eu le choix. Et donc, tu nous parles à ce moment-là aussi du male gaze. Et là, on est vraiment en train de parler de ça. C'est-à-dire que ces hommes qui ont eu toute la place en littérature ont créé, en fait, une vision de la femme en littérature. Enfin, ils ont créé vraiment sous leur regard des personnages qui n'existaient que par leur regard. La question que tu poses à ce moment-là, c'est pas celle que tu poses, mais c'est celle qu'on te pose, que beaucoup de journalistes te posent, c'est « mais vous vous identifiez à quelle héroïne de la littérature ?» Et là, y a un silence, en fait. Parce que toi, spontanément, tu réponds « qui ?»
Je bégaye que la liste de mes lectures, en tout cas avant une ouverture et une recherche hors des classiques qu'on m'a mis dans les mains, c'est une liste de femmes kidnappées, pendues, séquestrées, empoisonnées, jetées sous des trains, noyées, poignardées, etc. Et donc la question de à qui je m'identifie, à personne. Je préfère pas, voilà, c'est ce que je dis, je préfère pas telle kidnappée à telle pendue. En fait, je préférerais autre chose. Et je voudrais revenir sur le fait que tu disais que j'étais plutôt sympathique avec ces auteurs et plutôt calme. Parce que je crois qu'il y a une division du travail engagé et que ma place à moi, elle n'est pas dans le coup de poing. D'abord pour des questions de limites personnelles. J'ai pas la puissance de déflagration d'une Solanas. J'ai pas cette capacité à créer quelque chose qui produise le choc et la réflexion ensuite. Et j'ai tendance aussi à me dire que j'ai acquis un certain capital sympathie dans les dernières années qui fait que peut-être je pourrais, par surprise, sur un malentendu, réussir à convaincre un homme de droite. Mais en approchant un peu à pas de velours, comme ça. Bon, en fait, ça foire à chaque fois, hein. Les critiques de Beck BD le montrent. Ça ne marche pas, quoi. Genre, par surprise, que dalle, sur un malentendu, jamais. Non, de toute façon, ils ont trop de red flags qui font qu'ils se hérissent malgré tous mes efforts d'avancer doucement. Mais il y a quelque chose comme ça, de me dire, ma posture, voilà, ma posture à moi, elle essaye de passer avec un petit sourire et puis une sorte de oui, puis j'ai quand même amené des chiffres, donc du coup ce sera difficile à défaire. Bon, Je sais pas si je vais garder ça toute ma vie, mais, mais là, c'était un peu l'idée.
Tu dis que t'as pas la force d'une écriture qui crée la déflagration, etc. Mais je suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que vraiment, Je suis une fille sans histoire, ça a fait un vrai boom, en fait. C'est un texte qui a énormément marqué et qui a dépassé, en fait, le public engagé. Enfin, c'est pas un texte d'entre-soi, entre nous, féministes, qui nous posons ces questions-là. Je ne peux que encourager, en fait, chacun, chacune à lire Toute une moitié du monde pour continuer, en fait, cette réflexion-là. Un travail de référence qui est quand même incroyable. Et je me suis dit, mais tu te souviens de tout ?
Non, je suis allée rechercher des choses. Ah, quand même. Après, j'ai eu une enfance et puis une adolescence où j'ai énormément relu. Les livres n'étaient pas non plus si nombreux chez moi, et puis je lisais très vite, et donc il y avait... Et puis beaucoup, beaucoup des livres que j'avais venaient de la bibliothèque, et donc à un moment donné, il fallait les rendre. Et donc il y avait aussi un peu ce truc de les finir, et puis de les relire, parfois directement, pour essayer d'en garder le plus possible avant de devoir les rendre à la bibliothèque. Mes lectures d'adolescente, elles sont probablement plus présentes dans mes souvenirs que les livres que j'ai lus plus tard, mais plus proches dans le temps, et que j'ai lu qu'une fois. Et qui plus est, je pense que... Puisque du coup, le fait d'avoir dû rendre tous mes livres jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir en acheter et les garder, donc jusqu'à mon prix inter, en fait. ça a fait... Ça a développé après une sorte de truc contraire qui est genre je suis Smaug le dragon sur ma pyramide de livres, tu sais, genre ils sont à moi, il faut que j'en ai toujours plus, etc. Je repars des librairies avec des piles comme ça, c'est absurde. Et je pense que du coup, comme ils restent maintenant dans ma bibliothèque, je les lis pas avec ce truc de il faut que je grave sur la rétine la moindre des phrases de cette chose parce que... c'est ça, je crois que Il y a eu un moment où je lisais comme la communauté de la fin de Fahrenheit de Ray Bradbury. Je ne sais pas si vous avez ce truc, mais voilà, une fois que les livres sont détruits, il y a juste des gens qui portent les souvenirs de quelques pages de livres et qui peuvent les raconter. Et donc les gens deviennent les livres. Et j'avais un peu ça, quoi, ce truc de me dire, voilà, finalement, quand tous les livres seront rendus à la bibliothèque de la ville d'Alençon, il faut que je les porte tous en moi. Et maintenant que je sais qu'ils vont rester sur les bibliothèques et que j'aurai juste à sortir de ma chambre pour aller me servir dans le couloir, je lis plus sereinement, mais du coup, je garde moins de souvenirs.
Là où j'ai trouvé, et je vais me permettre de filouter un petit peu l'ordre de tes parties, tu nous proposes un parcours de lecture dans tes parties. Super intéressant, toi lectrice, toi autrice. Qui sont en face de toi, quels sont les hommes auteurs. Puis tu reviens à un endroit que j'affectionne particulièrement, qui est la fiction. J'ai l'impression qu'il faut un petit temps avant de se rendre compte ce que ça veut dire aussi politiquement, on va dire, de vouloir s'échapper comme ça dans un livre.
Et je pense que pour moi, c'est arrivé très vite parce que ce que je raconte aussi un peu brièvement dans toute une moitié du monde, c'est que... J'ai expérimenté des modes de lecture collective qui sont dus au fait que je viens d'une sororie où on est très proche en âge, donc on lisait les mêmes choses. Bibliothèque oblige, on devait les lire en même temps ou en tout cas sur un temps très rapproché avant de les rendre. Donc en fait, on se volait les livres les unes aux autres et pour lire un chapitre ou deux avant que la juste propriétaire vienne le récupérer, reprenne la lecture et tout ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup avancé avec mes sœurs, quasiment au même pas qu'elles, dans les pays de la fiction qu'on explorait. Et donc, cette conscience que les frontières, elles sont en réalité poreuses, et que c'est pour ça aussi que c'est... Enfin, en fait, que c'est pour ça que c'est important de parler de ce qu'on trouve dans les fictions et de ce qu'on aurait voulu y trouver d'autre, c'est parce que c'est pas quelque chose qui reste derrière la couverture des livres, c'est quelque chose qui va tout le temps passer d'un monde à l'autre. Et là, en l'occurrence, on le voyait bien, quoi, avec mes sœurs, on lisait les livres et puis en fait on en parlait. Et puis, ma grande sœur reprenait le livre parce qu'en fait c'était elle qui l'avait emprunté, et ben moi quand j'allais me coucher, je me racontais des histoires possibles de la continuation du livre que je pouvais pas avoir. Et puis, euh, Et puis comme je m'ennuyais beaucoup à l'école, je m'ennuyais beaucoup en fait. Je suis une enfant qui s'est beaucoup beaucoup ennuyée. À peu près partout en fait en réalité. Et la seule manière que j'avais de sortir de mon ennui, c'était de me replonger dans des fictions. Ça m'arrachait à ma stase présente et donc je voyais bien quoi que les mondes coexistaient en permanence, que parfois un prof m'interpellait et que je devais re-rentrer dans mon corps de collège ou de lycée et puis après je repartais directement dans l'histoire que j'étais en train de me raconter, etc. Et donc la compagnie des personnages, la manière dont encore une fois, enfin en fait je voyais bien aussi, pareil, c'est comme je lisais avec mes sœurs, on avait cette tendance donc soit à s'attribuer les personnages qu'on pouvait être dans l'histoire, soit à s'attribuer les personnages qui pouvaient être nos amoureux. Et du coup, se créer une hiérarchie des personnages, et en fait, tu commences à avoir des structures narratives de manière très claire quand tu fais ça, même à 8 ans, c'est-à-dire tu vois bien qu'il y a des personnages qui sont là uniquement comme procédé narratif, ou qui sont là uniquement pour être tués au second acte de l'action, et donc à partir du moment où tu dis bon bah comme on était voilà papa ours, maman ours et bébé ours quoi, avec les trois sœurs, tu vois, ma grande sœur la plus puissante avait donc le droit au meilleur personnage et au meilleur amoureux, et donc tu t'analyses un peu pour voir qui est ceci, et donc qui a le plus d'agentivité, qui a machin, qui est le plus original. Et au final, ça fait faire, même si ça s'appelle pas comme ça, ça fait faire pas mal de théories littéraires, dès le plus jeune âge, le fait d'avoir une mise en commun des expériences de lecture.
Quand tu dis ça, tu dis bien l'importance, en fait, de ces histoires dans nos vies. Comment, si on s'y retrouve pas, on doit créer des stratagèmes. Dans la suite de ton livre, t'as cette partie sortir du roman as usual, donc quelque chose du roman... du commun, de la vie facile, enfin je sais pas très bien comment on traduit as usual. La fiction, en fait on peut s'y endormir aussi, il peut y avoir toujours une recherche d'un certain type d'histoire parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on s'y retrouve facilement. On doit se permettre de sortir de ça pour, et là c'est peut-être moi qui interprète, se faire bousculer aussi. Politiquement, je trouve ça génial. Et je dis politique parce que j'arrête pas de revenir sur cette idée-là, mais pour moi, nos imaginaires ont besoin d'être bousculés pour qu'on puisse imaginer en fait un maximum de possibles. Est-ce que tu peux continuer de parler de ça?
C'est même pas forcément bousculer, juste être nourri. Enfin, on a de toute manière un côté éponge. On va attraper des éléments qu'ensuite on peut recombiner pour se créer des horizons d'attente, de désirs, des idéaux. C'est très très dur, voire strictement impossible de les créer à partir de rien. Donc en fait, c'est vrai que la fiction peut nous donner comme ça des éléments qui nous permettront de penser en fait d'autres manières de faire, d'autres manières d'être. Et c'est vrai que le roman As Usual, qui est en fait un terme que j'ai repris à Sophie Divry, et en vrai je le reprends un peu pour éviter de dire le roman canonique, ce qui a d'emblée un petit côté universitaire effrayant. et roman As Usual, il y a une nonchalance comme ça, il y a un cool que Sophie Divry avait dans son expression, que j'avais pas quand j'ai commencé à écrire roman canonique, donc j'ai fait emprunt. Et le roman as usual, mais pas juste le roman d'ailleurs, enfin les films, les séries tournent autour de mêmes histoires et qui sont toujours des histoires de puissants, tout simplement pour une raison d'économie, alors pas au sens de la moula, mais vraiment au sens d'avoir un nombre d'éléments à combiner qui soit pas trop important. Donc si on veut pouvoir en fait avoir une histoire qui ait des péripéties, qui ait des bouleversements, il faut qu'on ait un personnage qui soit suffisamment puissant pour pouvoir les créer, donc on va se centrer sur ces personnages qui ont du pouvoir. Et comme je commençais en parlant de toute cette moitié du monde féminine qui apparaissait peu ou pas correctement dans les fictions, c'était aussi de dire... Pour moi, le progrès, ce sera pas de transposer des femmes dans ces mêmes fictions. Parce qu'en fait, de toute manière, ça donne Captain Marvel. Et c'est pas, en fait, c'est pas un progrès en soi, parce que ça raconte, encore une fois, l'existence d'une superpuissance à côté de laquelle, finalement, tous les autres sont condamnés à être des petites figures, dans le fond, qui disent « Oh, mais où est-elle ? Oh, la voilà !» Et il faut, voilà, il faut, pour moi, trouver déjà des manières de raconter qui soient moins individuelles, qui s'appuient plus sur le collectif, ce qui veut dire aussi, donc, valoriser d'autres forme de relation que le héros et son fidèle écuyer, mais aussi donc que le couple hétérosexuel, que la famille nucléaire, que etc. Donc essayer de penser sur une échelle plus large quelles connexions humaines sont possibles, et puis au-delà de ça, quelles connexions avec le non-humain est également possible, parce que le roman et finalement un territoire de jeu qui est très 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 humain. Et le roman français, un peu, enfin, si on pense au roman balzacien par exemple, il y a un côté, c'est pour l'humain, par l'humain, avec toujours les humains. Enfin, c'est-à-dire que même quand il fait des descriptions de choses qui ne sont pas des humains, ce sont des choses qui sont façonnées par l'humain et qui racontent quelque chose des histoires des humains qui sont passées dans ces lieux. C'est le buffet. Il a été fait par telle personne qui, machin, il porte les marques de cette classe sociale, de ce passage dans la pauvreté qui fait qu'on a arrêté de lui mettre une couche de vernis, puis on n'a pas réparé son pied qui est comme ça. Tout raconte le même petit cercle humain. Et c'est vrai que une des intuitions que j'ai, c'est qu'une des choses qui a rendu possible la crise écologique qui, en fait, a commencé il y a bien longtemps, c'est que les choses qui ont été détruites dans les dernières décennies n'apparaissaient pas dans les pays qu'on fréquentait par la fiction. Et que donc, finalement, que des espèces d'oiseaux disparaissent, que des espèces d'insectes disparaissent, que des poissons mangent des microplastiques, on est habitué à la fréquentation d'un monde où aucune de ces espèces n'est présente. Et donc, ça peut pas causer le même choc de les voir disparaître que si on avait été élevé dans des récits où on nous montrait en permanence les interdépendances, les symbioses, etc. qui sont possibles. Et donc il y a un appel à trouver des fictions qui sauraient s'articuler autrement avec les vivants non humains. Est-ce que tu me regardes avec horreur ?
Ah non, pas du tout. Parce que là, je pense que je viens de réaliser quelque chose. En fait, moi, j'étais beaucoup restée sur les questions de genre et de représentation et de personnes. Et je pense que je n'avais absolument pas fait ce lien-là au vivant. Et c'est hyper émouvant, j'adore. J'ai envie de te dire, mais waouh, enfin... Mais oui. J'ai encore eu... un tiroir qui vient de s'ouvrir dans la force des imaginaires et de la fiction qui est hyper beau. Tu vois ces espèces, tu parlais de déflagration tout à l'heure, et je trouve que, tu vois là ce que je viens d'avoir, j'ai l'impression vraiment qu'un espace de possible vient de s'ouvrir. Et c'est ça que j'adore en fait avec la littérature, quand je dis qu'elle me bouscule, c'est exactement ça, tu vois. C'est cet endroit, et je l'ai beaucoup vécu quand j'ai découvert la littérature queer, et notamment écrite par des personnes trans. Il y a eu cet endroit où en fait... j'ai eu un truc de « wow, ça, en fait, je ne l'avais pas lu avant ». Et pour quelqu'une qui lit autant qu'une libraire, dire « je ne l'ai pas lu avant », c'est quand même un endroit assez incroyable, quoi. Et qui crée une émotion et quelque chose d'en vouloir plus. Sauf que bon, et là, on va se raccrocher à quelque chose d'un petit peu plus pénible, c'est que le monde littéraire dans lequel tout ça se passe, bon, est loin d'être engagé, féministe, pour le vivant, éco-féministe, etc. Il est bien capitaliste, on est dans une économie capitaliste.
Non, mais en fait, il y a deux possibilités. C'est soit le passage par les maisons d'édition indépendantes, soit parce que le capitalisme, en fait, est... Le capitalisme, c'est le blob. Il est capable de tout, de tout ingérer, quoi, de tout... Oui, et tout ce qu'il approche, il va finir par l'englober et par pouvoir le ressortir. En fait, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il suffit, d'un succès en librairie sur un thème, et même pas forcément en France, pour que les grosses maisons se disent « Ah, il y a quelque chose à faire ici et c'est fait avec un cynisme absolu, mais ça veut dire aussi avoir la puissance de feu des grosses maisons derrière. Et ça, comme la question, en fait, comme la question des intermédiaires qui se dressent entre nous et un livre, c'est quand même une question qui doit être posée et reposée sans cesse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir se frayer un chemin plus ou moins facilement jusqu'à un livre, si jamais il n'y a pas quelqu'un qui nous dit, genre, il faut absolument que tu lises ça, et puis qu'on va en librairie, et puis qu'on le commande, et que qu'est-ce qui fait que les livres nous atteignent? Et ben, en fait, les livres ont quand même plus de chances de nous atteindre quand ils sont portés par des maisons qui ont une diffusion qui est massive. Et donc, se pose un peu la question aussi est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à aller les bousculer? C'est-à-dire, on ne peut pas se dire « laissons-les entre hommes blancs bourgeois à la tête des monstres de l'édition, et nous, en fait, on va faire... avec des petites maisons d'édition, etc. » Oui, mais ça veut dire que dans ces cas-là, on n'inversera jamais ce rapport de force qui fait que ben, on aura toujours accès à leurs livres à 98% du temps et à 2% du temps aux autres.
C'est une énorme question. Une sortie chez Flammarion, c'est quelque chose qui se voit et c'est génial. Mais pour autant, tu dois aussi, toi, travailler en tant qu'autrice à cet endroit-là. Te dire, bon ben, quand tu vas dans les salons littéraires, ben, tu retrouves avec tous les mecs pas ok, qui boivent, qui draguent dès qu'ils peuvent. Enfin, il y a une réalité du monde du livre dont on parle peu, mais qui en fait est sous-jacent à tout ça. En fait, c'est que les grosses maisons, c'est de la visibilité, mais c'est aussi beaucoup, j'allais dire, d'emmerde.
Je suis pas sûre que dans les petites maisons, on soit à l'abri. Ne serait-ce que parce que en fait, les petites maisons participent aussi au festival de littérature, au salon du livre, etc. Et qu'elles vont envoyer, des gens qui sont dans des situations de précarité financière, parfois qui les mettent en bas de la chaîne alimentaire, dans ce qui est une chaîne alimentaire, aux yeux d'un certain nombre de personnes qui se comportent dans ce champ comme des prédateurs. Donc le danger n'est pas absent. Là, c'est un des domaines dans lequel la sororité a vraiment un immense rôle à jouer. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade, moi, je suis dans une position de pouvoir, par exemple. Financièrement, je suis plus dépendante, en fait, de ma maison d'édition. Je sais que mes confrères masculins savent que j'ai fait gagner plus d'argent qu'eux à Flammarion et qu'en fait, c'est pas le moment de venir me faire chier. Moi, qui suis relativement protégée par ça, je peux aussi protéger les autres. C'est-à-dire, je peux être la personne qui garde un œil sur les ballets très tristes de fin de soirée où des mecs qui sont dans des situations de pouvoir vont draguer d'une manière extrêmement lourde, extrêmement insistante, des jeunes femmes qui viennent d'arriver dans la maison d'édition, qui sont fragiles, qui ont beaucoup à prouver professionnellement, ou des autrices qui sont... dans des situations, oui, en fait, moi, je suis une exception, quoi. La situation des auteurs en France, elle est quand même très, très précaire, et celle des autrices est encore pire. Donc là, je crois que, voilà, que là, c'est pas la question petite maison, grande maison, c'est que on en retombe plus à que celles qui ont du pouvoir veillent sur leurs sœurs, et on arrivera à s'en sortir.
Après, c'est ça qui est aussi très intéressant de ce fait dans ton livre, c'est que tu mets les lectrices, en fait, au cœur de ces métiers-là aussi, de te rendre compte, en fait, toi, en tant qu'autrice, quelle est ta place, ce que tu vis, quelles sont, en fait, les libertés que tu peux ou pas avoir, etc. En face, t'as tout un paragraphe, la parade virile, sur, voilà, ce qu'est un auteur français, enfin, toute la construction systémique et d'oppression est la même.
En fait, c'était important pour moi, parce que j'avais remarqué que quand je racontais des histoires de rapports de force de harcèlement ou de violence sexuelle dans le monde de l'édition, à des gens qui connaissaient pas du tout le milieu, il y avait une profonde déception, comme si pour certains et certaines, il y avait cette croyance que la fréquentation de la beauté, de la littérature et le souhait de dédier sa vie à porter la littérature allait produire des personnes qui étaient exemptes de ces rapports de force, de la perpétration de ces violences, etc. Et donc je voulais dire, bah non, en fait, c'est là aussi, même chez des gens qui peuvent passer leur temps à discourir de Proust. Et l'autre chose, c'était donc justement sur la représentation des auteurs, c'était de dire à quel point donc il y avait cette confusion entre les livres, l'œuvre elle-même et la figure de l'auteur, et à quel point ce qu'on avait comme représentation du génie venait souvent avec une certaine image de l'homme et de sa puissance qui n'est absolument pas nécessaire à l'écriture. Et donc, je parle notamment dans le livre de la figure d'Hemingway et du fait qu'il a répété toute sa vie qu'il écrivait debout, que dans les bonnes journées de travail, il usait 7 crayons et que... qui plaçait ce truc-là du côté du coup d'éclat, quoi, Faulkner qui lui disait mais en fait genre un artiste doit jamais hésiter à dépouiller sa propre mère pour faire la meilleure œuvre d'art qui soit. Donc il y a aussi ce truc de pas de convention sociale qui tienne pour les artistes hommes. Là, Faulkner, il parle de sa mère, mais ça veut dire aussi on ne s'occupe pas de nos enfants, jamais. On ne tient pas la maison, jamais. Et puis en fait, on n'est même pas sympa avec nos amis, quoi. La plupart, en fait, c'est des chiens tout le temps, quoi. Et on leur pardonne énormément à cause de ce statut-là. Et donc finalement, quand les autrices arrivent avec d'autres manières de faire, on a tendance à penser qu'elles sont juste une sous-marque. Parce que vient avec l'auteur cette idée que il faudrait donc dépouiller les gens, il faudrait consommer aussi des quantités de substances qui sont assez phénoménales, il faudrait ne vivre que pour ça, et donc on dit bah non, mais en fait moi je travaille enfin au calme dans mon bureau à des heures des heures assez raisonnables, j'insulte pas les gens qui passent d'une manière que je trouve folle, ça nous déconsidère. Et quand le livre est sorti, j'ai eu pas mal de réflexions donc de mes confrères masculins qui me disaient mais tu exagères. Tu exagères en fait, tu parles de tu parles de choses qui appartiennent au passé, peut-être, oui, dans les années 80, avec encore ces trucs très individualistes, machin, il y avait ça, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est d'autant plus compliqué que on a quand même de plus en plus des rentrées littéraires où les femmes qui écrivent constituent la majorité des auteurs et des autrices en présence, et malgré tout... Elles sont quand même en division régionale et il y a que les hommes qui montent en national, quoi. Ça il faut qu'on le change, et ça passe aussi par détruire ces espèces de figures de l'auteur monstre génial qui en fait est juste une sorte d'accumulation des prérogatives du masculin devenu folle, quoi.
Ce livre est une bombe. Valérie Solanès n'était pas très loin quand même, hein. Merci beaucoup Alice, c'était un super moment, j'ai adoré notre échange. Et vite, désinguons ce monde littéraire.
Eh ben commençons.
Commençons. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie d'Alice Zeniter à l'occasion de la parution de son ouvrage « Toute une moitié du monde » aux éditions Flammarion. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.